Les amis, Erev Tov, les Koulam, en cette préparation de la dernière grande ligne droite pour arriver à Yom HaKippourim. Alors, il y avait marqué effectivement la tfila du roi Ménaché, mais en fait, c'est pas de ça qu'on va parler. Pourquoi c'est pas de ça qu'on va parler? Parce que, tout simplement, j'ai envie de vous parler d'autre chose. Voilà.
Est-ce que tu as donné ce cours l'année dernière aussi?
Ah ouais?
Je vais pas te le dire, mais voilà.
C'est vrai? Eh ben alors tu vois, comme ça, alors ça tombe très bien, puisque non, je me suis dit, c'est pas juste quand même. Il y a des gens qui habitent loin, il y a des gens qui habitent pas à Jéru, et donc ils ont pas pu, ils auraient voulu venir à Madracha de Shabbat Agadol dans ma synagogue, de Shabbat Tshuva dans ma synagogue, mais ils ont pas pu venir. Donc je me suis dit, je vais leur refaire. Voilà, puisque vous étiez pas là, et qu'en plus c'était en hébreu. Alors, je vais vous faire Madracha de Shabbat Tshuva de hier. Voilà, comme ça. C'est du frais, c'est du neuf, et tu pourras pas me dire que je l'ai fait l'année dernière. Donc comme ça, ça s'est réglé. Bah, et la prochaine fois que tu vois un truc comme ça, t'attends pas le moment pour me le dire. Dis-le moi tout de suite, moi je me souviens pas. Alors, allons-y. Les amis, pour tous ceux qui aimeraient avoir le texte de ce que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui, le texte est très facile à trouver, puisqu'il s'agit du 8e chapitre de la Mishnah, du traité de Yoma. Tout simplement. Donc, le traité de Yoma, c'est le traité qui parle de Yom Kippour. Et donc, on va étudier de la Mishnah aujourd'hui. On va être très, très simple. On va être très, très terre à terre et on va étudier de la Mishnah, mais peut-être d'une façon dont vous n'avez pas l'habitude d'étudier la Mishnah. Tout d'abord, je tiens à dire que dans le traité de Yoma qui parle de Yom Kippour, il y a 7 chapitres, les 7 premiers, qui malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas cours. Pourquoi? Ben parce que les 7 premiers chapitres traitent du Kohen Gadol, de sa avoda, le jour de Yom Kippour. Donc si vous voulez, les 7 premiers chapitres de Yoma, ben aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas du tout les mettre en pratique. Ni lui, ni nous. Aval, le 8e chapitre a quelque chose de particulier. Alors d'abord, ben parce que c'est le 8e. Et que donc, qui dit 8e, dit au-delà de la nature. Peut-être aussi, c'est pas anodin que ce soit lui qui soit le chapitre qui nous parle à toutes et à tous de manière complètement intemporelle, puisque ça ne dépend pas du Beth Amikdash, ou oui, du Beth Amikdash. Ça ne dépend pas non plus de la terre d'Israël ou pas de la terre d'Israël. C'est une réalité qui nous concerne tous et à chaque instant. Du moins, à chaque instant, à chaque Yom Kippour. Donc, on va se concentrer sur ce 8e chapitre. Et juste avant de rentrer dans le texte lui-même, j'aimerais prendre une introduction. La Mishnah, pas que de Yoma, hein, la Mishnah en général, a été mise en place, rédigée au 2e siècle, en l'an 200 à peu près, entre 200 et 220, à la fin du 2e, début 3e siècle, par Rabbi Yehuda Hanassi. Or, lorsqu'on parle de la Mishnah, eh bien, c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif. Puisque la Torah orale se transmet oralement. Le fait qu'on la mette par écrit, bah, c'est pas du tout l'objectif. Et donc, lorsqu'on a mis la Mishnah par écrit, on a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a perdu? Nous dit le Rav David HaKohen à Rav HaNazir. Vous savez, le Rav HaNazir, c'était l'élève du Rav Kook, c'était le Nazir de Jérusalem. Il ne s'était jamais coupé les cheveux, jamais rasé la barbe, il ne mangeait pas de viande. C'était quelqu'un, vraiment une personnalité absolument incroyable. Il a pris sur lui de ne pas sortir de sa maison durant 19 ans entre la création de l'État d'Israël et la libération de Jérusalem. Il n'est pas sorti de chez lui. On parle vraiment de quelqu'un de très, très, très particulier. Eh bien, le Rav HaNazir a dit une phrase magnifique. Il a dit « Me'az shenigneza » Nishmat Ayahadut Sudra Mishnata. Je répète, Meas chez Nigneza Nishmat Ayahadut Sudra Mishnata. Depuis que a été mis dans la Geniza la Neshama du judaïsme, alors on a dû mettre en place sa Mishnah. Et oui, la Mishnah qui cadre les choses, avant qu'elle soit mise en place comme on la connaît, elle était la Neshama du judaïsme. Et donc, Eh bien, ce que nous allons essayer de faire ensemble aujourd'hui, ne serait-ce que pour le 8e chapitre de Yoma, eh bien, c'est de, bah, tout simplement, de prendre cette Mishnah et de lui redonner sa Neshama. D'accord? Alors, je vais juste essayer tout de suite, là, en deux secondes, de, voilà, de vous trouver le texte, comme ça, vous pourrez suivre. Alors, donnez-moi une seconde. Hop là. Hop là. Toute petite seconde, parce que j'ai pas préparé ça, évidemment. Voilà. Voilà. Hop là. J'espère juste que Yoann pourra me laisser partager. Voilà.
Oui, c'est bon, au passage...
Ouais.
Neshama, Mishnah, c'est les mêmes lettres aussi.
Ah bah évidemment. Vous aurez compris que Neshama et Mishnah, c'est la même chose. Alors, est-ce que je peux partager ? Voilà. Parfait. Yofi. Alors, allons-y. Nous allons donc rentrer maintenant dans la Neshama de la Mishnah. Tout d'abord, avant de rentrer dans le texte lui-même, on rentre dans Yom Kippour et j'aimerais qu'on comprenne bien une chose. À Yom Kippour, il y a deux sortes d'interdits. Il y a les interdits dus au jeûne, dus à ce qu'on appelle inouï, c'est-à-dire l'affliction, et il y a les interdits qu'on appelle issur melacha, le fait qu'on n'ait pas le droit de faire des travaux de Yom Tov. Eh bien, ces deux séries d'interdits n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les interdits du inouï, de l'affliction, sont Mikriim, ils sont par hasard là. Ils sont là parce que, eh bien, nous avons fauté. Et donc, nous dit la Torah, Ve'initem et nafshotechem, ki bayom azeh yechaper alechem. Vous devrez vous affliger parce que c'est le jour où j'amène la kapara. Mais ça, c'est parce qu'on a fauté. Imaginons un monde où on ne faute pas. Eh bien, il n'y a pas ces interdits de inouï. Et nous avons eu un cas dans l'histoire où on n'a pas jeûné à Kippour. C'était l'inauguration du premier Beth Amikdash. Lors de l'inauguration du premier Beth Amikdash, eh bien, Shlomo HaMelech va faire des festivités du 7 jusqu'au 14 Tishrei. Et pendant toutes ces festivités, il y aura Mishteh Vesimcha. Des grands festins, y compris le 10 du mois de Tishrei. Donc, évidemment, y compris à Yom Kippour. Donc, on voit que les Inouïm sont là par hasard, parce qu'ils sont là, parce qu'on a fauté. Ce qui n'a rien à voir avec Issur Melacha. Le fait de ne pas faire de travaux à Yom Kippour, on pourrait, comme je l'ai dit il y a 5 secondes, on pourrait penser que c'est dû à Yom Tov. Mais en fait, non. Car ce sont des Issurim qui sont en rapport avec Shabbat. À Yom Tov, on a le droit de cuisiner. À Kippour, on n'a pas le droit de cuisiner. À Yom Tov, on a le droit de porter. À Kippour, on n'a pas le droit de porter. C'est-à-dire que les interdits de Melacha de Kippour ressemblent à ceux de Shabbat et pas à ceux de Yom Tov. En d'autres termes, le jour de Yom Kippour a une dimension extraordinaire puisqu'il est capable de transformer Yom Chol non pas en Yom Tov, mais en Shabbat. Et ça, c'est énorme. Donc on va voir que cette deuxième dimension de Issur Melacha, elle a quelque chose de complètement différent, on y reviendra à la fin de notre étude. Maintenant qu'on a fait toutes les introductions, alors allons-y, nous pouvons rentrer dans le texte. Toutes les Mishnayot ont deux côtés. On a un côté Alacha et un côté Neshama. Nous aujourd'hui, on va se concentrer sur le côté Neshama, puisque le côté Alacha, vous le connaissez. On n'a pas le droit de manger à Kippour. D'accord? Alors allons-y. Mishnah Aleph. Yom HaKippurim Asur Be'achila ou Be'shtia ou Be'rechitza ou Be'sicha ou Be'ne'ilat HaSandal ou Be'tashmish HaMita. Le jour de Yom Kippour, on n'aura pas le droit de manger, de boire, de se baigner, de s'induire d'huile, de nouer des chaussures et d'avoir des relations intimes. Voilà, les cinq interdits de Kippour, on les connaît bien. Mais pourquoi ce sont ces interdits-là? qu'est-ce que ces interdits viennent m'apprendre à moi? Au-delà du fait que ça me fait pas kiffer de pas manger. Les amis, ce sont les cinq choses qui peuvent me faire fauter. Soit je faute par un trop-plein de nourriture, par un trop-plein de boissons, vous comprenez bien qu'on ne parle pas ici d'eau, soit parce que je suis trop en train de m'adonner au plaisir du corps, de l'huile essentielle, des bains, ou alors parce que, eh bien, je m'élève au-dessus de ma condition, je me la pète, comme on dit en français, Neila ta sandal, et enfin, les relations intimes qui peuvent m'amener à la faute. Donc vous comprenez que ces cinq interdits sont les cinq réalités qui pourraient emmener l'homme à fauter. Maintenant, la question est la suivante. Ces interdits-là, ils sont des interdits de la Torah ou des interdits des rabbins? Eh bien, les amis, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que c'est des Horaïta ou des Rabbanan? Mais les amis, en vérité, il y a un enseignement fantastique d'un Rav qui s'appelle Rabbeinu Nissim, le Ran, qui nous dit comme ça. Ce sont des interdits de la Torah, mais comme ils n'apparaissent pas clairement dans la Torah, ça veut dire que bien qu'étant des interdits de la Torah, Dieu a laissé la possibilité aux rabbins de les enlever quand ils veulent. Waouh ! C'est pour ça que la Mishnah continue et me dit, malgré le fait qu'à Yom Kippour, on n'a pas le droit de faire 1, 2, 3, 4, 5, à Melech et à Kala, Irchatsu et Peneem, et à Chaya, Tinol et Asandal, divrei Rabbi Eliezer, et Chachamim, Osrim. Rabbi Eliezer nous dit, le roi et la Kala, ils ont le droit de se laver. Mais deux secondes, on a dit, on ne parle pas de Halakha. Donc, on va pas parler du simple concept que le roi d'Israël et la Kala, dans son année de mariage, elle a le droit de se laver le visage. C'est pas ça qui nous intéresse. Rabotai, c'est quoi Yom Kippour? Yom Kippour, c'est la rencontre entre Dieu et le peuple juif. C'est le moment où le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim. Alors, vous comprenez bien que le Meler qui est mentionné ici, ce n'est pas simplement le roi, c'est Ribono Shel Olam. Et la Kala qui est mentionnée ici, c'est pas simplement la Kala, c'est l'Assemblée d'Israël. Donc on nous dit, bien sûr qu'on n'a pas le droit de faire 1, 2, 3, 4, 5. Aval, ceux qui vont comprendre que Yom Kippour, c'est la rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, à ce moment-là, eh bien dans cette dimension-là, Rochatzim et Tapanim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est dans cet état de Kala ou de Meler, eh bien, on comprend qu'on a besoin de Ehara Tapanim, qu'on a besoin d'un visage qui est clair, qui est propre, prêt à la rencontre entre Dieu et le peuple juif. Vous comprenez que ces Mishnayot ont un sous-texte qui n'est pas du tout simplement la Halakha. Qu'est-ce qui se joue à Yom Kippour? C'est la rencontre entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Ve'achaya tinal et asandal. Eh oui! Parce qu'il n'y a pas que la rencontre. Yom Kippour, c'est le moment où on s'attache à Dieu. Donc il y a une personne par excellence qui montre sa capacité à s'attacher à Dieu. C'est qui? Chaya. Chaya, c'est celle qui vient de donner naissance. C'est une femme qui vient de donner la vie. Elle, elle a le droit de mettre des chaussures. Quoi? Comme si ça la dérangeait d'être sans chaussures. C'est pas ça la question. La question, elle est que Neilat Asandal, le fait de mettre une chaussure, c'est ce qui me permet d'être surélevé par rapport à la nature. Je suis pas à même le sol, je suis au-delà de la nature. Eh bien, la femme qui vient de donner naissance, comme la première d'entre elles, Chava Imenu, eh bien, on nous dit d'elle, enfin, elle le dit, quand elle a donné naissance à Caïn, Kaniti Ish et Hashem. Je suis enfin devenu un peu comme Dieu! De la même façon que Dieu, eh bien, a donné naissance à l'homme, moi aussi j'ai donné naissance à l'homme. En d'autres termes, Chaya, c'est celle qui se rapproche le plus de ce qui est au-delà de la nature. Donc elle a évidemment le droit de se détacher de la nature, elle pourra mettre sa chaussure en cuir. Vous comprenez que ce qui est en train de se jouer ici, ce n'est pas une simple question de halakha. C'est qu'est-ce qui est en jeu à Yom Kippour. Donc on a compris, ce qui est en jeu, c'est la rencontre entre Knesset Israël et Dieu, et donc la capacité de s'élever au-delà de la nature. Deuxième Mishnah. Ha'ochel beyom ha-kippurim, kakotevet ha-gassa, kamoa ve-garinata, ve-ashote bimlo logmav, chayav. Celui qui mange une date majoul, ou alors celui qui se remplit la bouche de boisson, alors il aura transgressé Kippour. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Depuis quand ce qui détermine ce qu'on n'a pas le droit de manger ou ce qu'on a le droit de manger, c'est une date majoul ? D'habitude, on utilise des termes comme kazaït ou comme kabetza. Pourquoi est-ce que là, on me parle de la date majoul ? Que kakotevet agassa. Eh bien, les amis, il faut savoir qu'il y a deux sortes de dates en Eretz Israël. Il y a la date qu'on appelle kakotevet agassa, qui s'appelle majoul, et l'autre qui s'appelle dekelnour. La différence entre les deux est très simple. Dans le dekelnour, il n'y a pas d'espace entre le noyau et la chair. Alors que dans la majoul, il y a un espace vide entre le noyau et la chair. Les amis, dans cette deuxième Mishnah, nous sommes en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut amener l'homme à fauter. Soit il a mangé une tamar majoul, soit il a rempli sa bouche de boisson. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des gens qui fautent parce qu'il y a un halal panouï, parce qu'il y a une distance, il y a une absence entre le noyau et la chair. En d'autres termes, d'après Rabbi Nachman de Breslav et l'enseignement de la Kabbalah, il y a des gens qui fautent à cause de ce qu'on appelle « achalal apanouy », c'est-à-dire eh bien, une réalité d'absence du divin, ou alors que je n'arrive pas à gérer ma relation avec le divin. Il y a des gens qui fautent à cause de cet éloignement. Mais il y a d'autres gens qui fautent pour d'autres raisons, parce qu'ils ont rempli leur bouche de liquide. C'est pas une mesure, ça. Ça dépend de la bouche de chacun. Nachon. C'est exactement de ça qu'on parle. Il y a des gens qui fautent parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. Certains fautent parce qu'ils ont un manque de relation avec Dieu. Et d'autres fautent parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. Melo logmav. Et c'est pourquoi on va nous dire, si tu manges, bah, tout ce que tu manges, ça s'ajoute. Si tu bois, tout ce que tu bois, ça s'ajoute. Mais si tu manges et bois, ça ne s'ajoute pas. Ben oui, parce que ce n'est pas la même réalité. Celui qui faute parce qu'il est plein de lui-même, il n'est pas le même que celui qui faute parce qu'il cherche Dieu, mais il n'arrive pas à le trouver. C'est deux choses complètement différentes. Deux réalités qui nous poussent à fauter. Tov, alors puisque c'est comme ça, alors toute la question est de savoir est-ce que je remets Dieu dans l'histoire. La reine, la troisième Mishnah. Achal veshata be'alem echad. Vous savez pourquoi il a mangé ? Celui qui a mangé ou qui a bu ? Be'alem echad. Ça veut dire par la disparition du echad. Eh oui ! Pourquoi est-ce que tu fautes ? Peut-être parce que le 1 n'est pas très présent dans ta vie. Donc quelle doit être la réponse pour celui-là ? Eino chayav el achatat echat. Il doit ramener dans sa vie Achat. Il doit ramener Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Il y a une phrase dans le Talmud qui dit « Ne ressemble pas à celui qui étudie 100 fois son Talmud, qui revient 100 fois sur son étude, à celui qui revient 101 fois. Ben » Franchement, ça ne veut rien dire. Parce que quelqu'un qui revient 100 fois sur son étude ou 101 fois, il connaîtra pareil. Parce qu'en français, ça veut rien dire. Mais en hébreu, ça veut tout dire. Celui qui est revenu 100 fois sur son étude, Zayafé Meod, il connaît par cœur. Mais ça n'a rien à voir avec celui qui est revenu 100 fois plus 1. C'est-à-dire qu'il a mis le 1 dans ses 100 fois où il a étudié. Il y a des gens qui font un doctorat en études comparatives entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem à l'université de Bar-Ilan. Ils sont toute la journée en train d'étudier la Gemara. Par contre, ils ne mettent pas du tout Dieu dedans. Et il y a des gens qui étudient et qui mettent Dieu dedans. Donc celui qui a fauté Be'alem Echad, parce qu'il est né l'âme, Dieu n'est pas présent. comment tu dois répondre? Eh bien, tu dois lui ramener à Echad. Et c'est pour ça qu'on te dit, Shagag ve'achal ve'asa melacha, chayav shtei chataot. Par contre, s'il a mangé et qu'il a fait une melacha, un travail, là, c'est deux choses complètement différentes, puisqu'on a dit, les inouïm et le issur melacha, ça n'a rien à voir. D'accord? Vous êtes avec moi pour l'instant? On peut aller encore plus loin? Yala! Achal ochalim she'einam reouim la'achila. Shata mashkin she'einam reouim l'shtia. Shata tsir omurias patour. Si quelqu'un y mange quelque chose qui n'est pas comestible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nachon, il y a des fois des gens qui arrêtent de se comporter comme des êtres humains. Zelo raouy le'achila. Pour qui? Pour les hommes. Vous connaissez l'histoire certainement du prince qui se prenait pour un dindon. Maase beben ameler, shechashav et atzmo hindik. C'est dans les histoires de Rabbi Nachman de Breslov. Et là-bas, qu'est-ce qu'on va nous dire? Il y avait un prince qui se prenait pour un dindon. Et pour le soigner, il a fallu amener un médecin qui a dit, moi, je sais comment le soigner. Et il s'est mis tout nu lui aussi. Et il s'est mis sous la table. Et il s'est comporté comme un dindon aussi. Tu comprends que quand tu te comportes plus comme un être humain, tes actions, on les considère pas comme des averot ou comme des mitzvot. Atapatour, niftarim mimcha. On te compte même pas dans l'histoire. Si tu te comportes pas comme un être humain, atalo itanu. Tu fais pas partie de l'équipe. Prenons un exemple. Deux créatures ont été prises dans un accident de voiture terrible et on les amène à l'hôpital. Il n'y a qu'une salle d'opération, on peut en sauver qu'un des deux. Dans les deux créatures, il y a un nazi, certifié nazi, qui a activé le zyklon B. Et d'un autre côté, on a un singe, tzadik, chassid ou mot haolam de Yad Vashem, qui a sauvé des juifs pendant la Shoah. Lequel on sauve? On sauve le nazi. Parce qu'il a beau être un pourri, c'est un homme. Et un homme, c'est mieux qu'un singe. Quoi qu'il arrive. Donc si toi, par contre, tu décides de ne plus te comporter comme un homme, « Ata ochel, lo raoui la achila » À ce patour, on parle même plus de toi. À Yom Kippour, tu dois retrouver ton identité profonde. Et puis là, la Mishnah va nous dire « Ok, très bien, j'ai compris. Besseder. » Mais il y a des gens pour qui ils ont le droit de manger. Atinokot. Ein me'anim otam beyom ha'kippourim. Pourquoi est-ce que les enfants, on les fait pas jeûner? Pas shoot! Parce qu'ils ont pas fauté! Il y a une réalité où on faute pas, et on a dit, donc quand on faute pas, il n'y a pas de inouïm. Ah oui, mais attendez. Alors comment ça se fait qu'après on nous dit, aval margilim otam, כן, מחנכים אותם קודם לשנה או קודם לשנתיים, בשביל שיהיו רגילים במצוות. C'est un cas unique dans l'histoire. On nous dit un an ou deux ans avant, on les fait faire un peu kippour quand même. Mais c'est pas le cas à Tisha B'Av, c'est pas le cas de Shabbat. T'es pas obligé de faire faire Shabbat à un enfant avant ses 13 ans. Alors nous on le fait parce que pour le chinour, mais t'es pas obligé à la fin. Alors que là la Mishnah nous dit pour kippour, oui. Vous savez pourquoi? Parce que Nachon, l'enfant, il faute pas. Mais petit à petit, il faut qu'il s'habitue que dans ce monde, il y a des fautes. Lui, il va peut-être pas y participer, mais qu'il sache que maintenant qu'il va devenir bar mitzvah, il rentre dans un univers où il y a des fautes. C'est exactement ce qu'on fait lorsque l'enfant va naître. Lorsque l'enfant va naître, sa neshama, elle descend du monde des neshamot et elle arrive non seulement dans ce monde-ci, où il y a des problèmes, mais en plus, elle arrive dans un corps d'un homme qui n'a pas la brit mila. Et c'est pour ça que les Ashkenazim, ils ont inventé une soirée fantastique, une soirée de déprime totale qui s'appelle le Shulom Zucher, Shalom Zachar, ou le Shabbat avant la brit mila. Eh bien, on invite les gens et on leur donne des plats d'endeuillés. Oui, oui, des plats d'endeuillés, qu'on appelle dans le langage ashkénaze « arves ». Des pois chiches, des œufs. Pourquoi? Pour réconforter la neshama, tel on réconforte un mort, qui est venu dans ce monde où il y a des problèmes et en plus dans un corps harel. C'est pour lui dire, prépare-toi. Ton rôle va être maintenant de corriger ce monde. Eh bien, c'est ce qu'on dit aux enfants. Nachon, vous fautez pas. Mais justement parce que vous fautez pas, soyez prêts et conscients du monde dans lequel vous allez arriver. Et puis, il y a d'autres personnes à qui on permet de manger. C'est qui les autres personnes à qui on permet de manger? Il y a d'autres personnes qui ont besoin. Nous dit la Mishnah, donc cette fois dans la Mishnah 5. Ubara she'iricha. Mazé Ubara, alors littéralement, c'est une femme enceinte. Mais attendez, elle est en train, cette femme, d'enfanter qui? De quoi on est en train de parler? De la rencontre entre Dieu et le peuple juif. On parle de la Géoula. Elle est en train d'enfanter la Géoula. Mais des fois, quand elle est face à la réalité du terrain, eh ben, elle se sent pas bien. Donc, on nous dit, Ubara she'iricha, ma'achilim ota ad she'tashuv nafsha. Quand on est en train d'enfanter la Géoula, on s'occupe de créer le corps de la Géoula. Au départ, on a asséché des marécages. On a créé des villes. On a créé tout un réseau de Movila Arti, de d'eau. On s'occupe du corps de la Géoula. Donc les gens qui sont à 100% occupés au corps de la Géoula, qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque le Nefesh. Donc la Mishnah nous dit « Atchetashuv nafsha ». Et puis il y a des gens pour qui c'est le corps qui va pas bien. « Cholé ». Cholé, c'est le corps qui va pas bien. Donc on lui dit « Ma'achilim oto alpi beki'in ». Celui qui a un problème, qui n'a pas assez de corps, eh bien, on va lui donner à manger jusqu'à ce qu'il dise dai. Mazé dai, va'arikoti lachem beracha ad beli dai. La beracha, c'est l'abondance matérielle. Donc, dans le processus de la Géoula, il y a deux choses qu'il faut ramener. Il faut ramener le nefesh et il faut ramener le corps. Vous comprenez ce qui est en train de se jouer à Yom Kippour? Et puis le problème, c'est qu'il y a des gens dans ce processus de Géoula, chez Achazo Boulmous. Mazé Boulmous, c'est la boulimie. Et il veut manger, il veut manger, il veut manger, il veut manger. Ça veut dire quoi? Dans cette recherche de la Géoula, il y a des gens qui veulent manger tout ce qui leur passe par la tête. Tout ce qui leur passe devant les yeux. Hey, je veux. Genre, j'essaye de me remplir de tout et n'importe quoi. On nous dit « Ma'achilim oto afilut dvarim tmeim ». Ah, moi, un peu de yoga, un peu de new age, un peu de féminisme, un peu de communisme. Je prends, je prends. Bon, la Mishnah nous dit, pas de problème. Donne-lui même des trucs tmeim. Pourquoi? Ache yairu einav. Jusqu'à ce que ses yeux se réouvrent. C'est-à-dire quoi, ses yeux? Eine a eda, les yeux de l'assemblée, c'est la chokhma, c'est les chachamim. Donc, en fait, ok, ok, tu veux faire ton yoga, fais ton yoga. Tu veux faire des séances de méditation à Tel Aviv, vous savez pas le nombre de séances, de salles de méditation, de réflexion spirituelle. Les gens, ils sont en recherche d'Akadosh Baruch Hu, seulement ils savent pas le dire. Donc on leur dit, tu peux faire ton yoga jusqu'à ce que tu te rendes compte que ça sert à rien. Mishenechacho kelev shoté. Oua. Kelev shoté, dans la Gemara, ça fait référence à Amalek. Dans le processus de la Géoula, il y a aussi un moment où Amalek vient et essaye de nous détruire complètement. Ben nous, on sait ce que c'est. Nous, on a connu la Shoah. Dans le processus de la Géoula, on nous dit « Yesh mishenechacho kelev shoté ». « Ein ma'achilim oto michatzar kavet shelo ». Il faut comprendre qu'à l'époque, quand il y avait un chien enragé, on pensait qu'il fallait faire manger le foie du chien aux malades. Ben, c'est ce qui va amener plus tard Pasteur à créer les premiers vaccins. Comprendre qu'il faut utiliser le mal pour traiter le mal. Seulement, la Mishnah nous dit « En ma'achilim oto chatzara kavet shelo » Aval Rabbi Matia ben Charash, Matir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel efchoté, on a dit, c'est Amalek, c'est la Shoah? On nous a fait ce qu'on nous a fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après pour se remettre debout? Est-ce que on va utiliser les mêmes armes que ou pas? Vous savez que dans les années 50, Aujourd'hui, c'est très répandu, il y a les films de Marvel et on parle des Avengers. Sauf que les Avengers, c'est pas Marvel à la base. Il y a eu dans les années 50, au début des années 50, les Vengeurs juifs, les Nokmim, des unités complètement top secrètes qui étaient complètement pas officielles et qui étaient envoyées par Israël en Allemagne pour tuer du nazi. Eh oui, les amis, ça existait. Jusqu'à ce que l'État d'Israël décide d'arrêter. Et d'après ce qu'on sait des recherches actuelles, on aurait tué près de 2500 nazis. Et la question, on a arrêté. Est-ce que c'est bien d'arrêter ou pas? La Mishnah nous dit, on le fait pas. Mais il y en a un qui dit, si, il faut le faire. C'est quoi qui est en jeu ici? Les amis, c'est la justice. Très souvent dans la société moderne, quand on voit nos ennemis nous faire des attentats et nous attaquer de toutes parts, très souvent on entend il faut pas descendre à leur niveau, s'abaisser à leur niveau. C'est ça toute la question. Est-ce qu'il faut ou il faut pas? D'un côté, la Mishnah nous dit il faut pas, mais Rabbi Matia ben Harash dit il faut. C'est la justice. Rabbi Matia ben Harash, il est parti ouvrir une yeshiva à Rome. Après la destruction du temple par les Romains. Elle dit, moi, je vais là-bas, dans la fosse aux lions. Et c'est là-bas que je vais puiser les forces. Dans la génération de la Géoula que nous avons vécue, eh bien, on s'est posé cette question-là. Est-ce qu'on doit réagir comme eux ou pas comme eux? Mon avis personnel, et il n'est que personnel, je pense qu'il faut utiliser leurs armes. Je pense qu'il faut parler leur langage. Un, pour la justice, et deux, pour qu'ils comprennent. Parce que si tu parles pas le même langage que celui qui t'agresse, il comprendra pas. Et c'est très important de le comprendre. Ve'od amar Rabbi Matia ben Harash, achoshesh befiv, matilim letocho sam beshabbat. Celui qui a peur pour sa bouche, de quoi on parle? L'homme se détermine par sa parole. Lorsque dans la Torah on nous dit Vayi Adam le Nefesh Chaya, Rashi nous dit Ruach Memalela. L'homme, c'est celui qui parle. Il ouvre la bouche et il dit quelque chose. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'il doit dire? Nous dit Rabbi Matia ben Harash, tu dois lui mettre Sam Bapé. Mazé à Sam, c'est quoi cette drogue? Sam Achaim. Sam Achaim, c'est la Torah. Les amis, dans le processus de la Géoula, Am Israël, il peut de nouveau ouvrir la bouche. On envoie des premiers ministres à l'ONU. Mais il serait temps qu'ils arrêtent d'ouvrir la bouche pour dire des bêtises. 2000 ans, on a attendu pour qu'Am Israël il puisse reparler au monde. Il est temps qu'il parle Torah. À quoi ça sert que le Premier ministre il aille dire des bêtises à l'ONU? Et quand je dis des bêtises, attention, hein, je parle pas que d'Yair Lapid. Hein. Bibi, il a dit exactement les mêmes bêtises quand il était Premier ministre. Cette histoire de deux États pour deux peuples, machin, c'est pas l'apanage de l'un ou de l'autre. Quand est-ce qu'on va avoir un Premier ministre qui vient et qui parle Torah? Sam Achaim. On a retrouvé notre bouche, il faut qu'on sache comment l'utiliser. Alors tout ça, c'est bien beau. Mais ça veut dire que dans notre génération, génération de la Géoula, génération de la re-rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, Yom Kippour, eh bien, des gens qui ont perdu leur identité, qui sont en doute sur leur identité. Et c'est la Mishnah numéro 7. La Mishnah numéro 7 nous dit « Mishenafla alav mapolet » Celui qui est tombé dans un éboulement. Ça veut dire quoi? Il y a tellement de choses qui lui sont tombées dessus depuis 2000 ans d'exil. Alors, il y a trois sphécotes dans son identité. Trois doutes. Regardez bien. Ça fait Kusham, ça fait Keinosham. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Premier, ça fait, est-ce que tu sais quelle est ta place, quel est ton endroit? Est-ce que tu as compris qu'il fallait rentrer en Israël ou tu n'as pas compris? Deuxième, ça fait. Ça fait kouchaï, ça fait kmet. Mazé achaïm, c'est la Torah. Mazé amavet, c'est bli Torah. Donc, deuxième safek, est-ce que yesh li Torah ou en li Torah? Troisième safek, safek nochri, safek Israël. Est-ce que je suis toujours rattaché au peuple juif ou je suis déjà marié avec une goya? Trois safekot, bedor ageoula. Je sais quelle est la place de la terre d'Israël, la place de la Torah, la place du peuple juif. Eret Israël, Torah Israël, Am Israël. Mefakrim alav. Matzao chai, mefakrim alav. Veim met, yanichou. Tov, nounou. Alors comment on fait? Comment on fait pour enfin faire la place à ces retrouvailles avec Akadosh Baruch Hu? On dit la Mishnah dans dans la Mishnah 8. Chatat ve'asham vadai mekaperim. Les korbanot, ça fait la kapara. Ah oui, les korbanot, c'est quand il y a le lien avec Dieu. Mita ve'yom ha'kippurim mechaprim im tshuva. Ha'teshuva mechaperet al averot ha'kalot ve'al ase ve'al lo ta'ase ve'al ha'chamurot itola ad she'yavo yom ha'kippurim ve'yechaper. Il y a deux choses pour faire la kapara aujourd'hui. La teshuva et yom ha'kippurim. Mazé à teshuva. Eze teshuva! C'est quoi la teshuva? Rabotai. La teshuva, c'est ce qui a marqué dans le livre de Dvarim. Veshavta d'Hashem Elohecha veshamata bekolo. Et tu reviendras vers Dieu et tu entendras sa voix. Veshav vekibetzra mikol ha'amim. Et il te ramènera de tous les peuples où il t'a envoyé là-bas en exil. La grande teshuva, c'est la teshuva en terre d'Israël. On a déjà étudié ensemble. Et donc la tshuva c'est une, mais la deuxième chose c'est Yom HaKippurim. Nous dit la Gemara, Itsumo shel Yom Mechaper. L'essence de cette journée amène la kapara. Et le Rav Tzvi Yehuda Kook disait, Chazaratenu le'atzmeyutenu hi zo shemechaperet. Le retour à notre identité profonde, c'est ça qui amène la kapara. Et notre identité profonde ne peut être atteinte que lorsqu'on est rentré à la maison. Et ainsi, la Mishnah termine ce dernier chapitre en disant Aomer echeta ve'ashuv echeta ve'ashuv en maspikim be'yado la'asot tshuva. Celui qui dit je vais fauter, je reviendrai après, on l'aide pas à faire tshuva. Mais s'il veut faire quand même, tout le monde peut faire tshuva, y compris celui qui pendant si longtemps n'était pas connecté. Tout le monde peut se reconnecter pour faire cette nouvelle rencontre avec Dieu. Et Rabbi Akiva termine en disant, Rabbi Akiva Omer, Ashrechem Israël, Lifne mi atem mitaharim. Ashrechem Israël, car vous amenez la Tahara, Lifne mi. Avant que Dieu lui-même, il vous emmène la Tahara, c'est vous qui précédez. C'est nous, Am Israël, qui précédons Akadosh Baruch Hu dans notre retour au rendez-vous. Tout ce perek, tout ce chapitre 8 vient nous dire qu'est-ce qui peut amener l'homme à fauter? Qu'est-ce qui peut le sortir de la faute? Quels sont les enjeux de la Géoula? Et quelle est la réalité d'un peuple juif qui a envie de retrouver son bien-aimé? Ainsi donc, eh bien, si on arrive à comprendre cela, eh bien, on arrivera à une étape où les innuyim, comme je l'ai dit en début, vont cesser. Lorsqu'on construira le Beth Amikdash, eh bien, comme au premier, on n'aura plus besoin de jeûner, de pas boire et tout ça, puisque les retrouvailles avec Akadosh Baruch Hu seront actées, et il n'y aura plus que Issur Melacha, l'interdiction de travailler, pour faire de cette journée de retrouvailles Yom Kadosh. Yom Kadosh. Et vous savez quoi? Dans la halakha, eh bien, on nous dit que le chatan qui vient de se marier, il n'a pas le droit d'aller travailler. Pendant les 7 jours du Mishté, il n'a pas le droit de 7 jours de Shiva Brachot, il n'a pas le droit d'aller travailler. Il doit fermer son commerce. Pourquoi? Les Sameach et Akala. Ah, il ne va quand même pas la laisser aller travailler. Eh bien, il en va de même pour notre relation avec Dieu. À Yom HaKippurim, enfin, on se remarie. Et donc, puisqu'on se remarie, il y a sept jours jusqu'à Soukhot, on arrête de travailler. On arrête de travailler. Mazé, on arrête de travailler. C'est pas Shabbat. Non, non. Il y a sept jours où on se concentre uniquement à la relation entre le Khatan et la Kala. Et on finit cette relation-là lorsqu'on s'est construit une maison ensemble. On se construit une maison ensemble, la Souka, dans laquelle on peut rentrer, et lui, et nous, pour arriver à bah, ce moment d'interaction totale entre lui et nous, Bechag à Soukhot. Voilà que ce huitième chapitre n'est pas du tout seulement là pour nous apprendre des halakhot, mais bien au contraire, pour nous apprendre comment ramener la rencontre entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Que nous ayons la chance de passer la dernière année d'un Yom Kippour où on doit corriger les fautes pour pouvoir nous retrouver dans un Yom Kippour qui sera Kol Kulo Cheder Ichud, comme dit le Gaon de Vilna, entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Chag Sameach, Chatima Tova, et puis s'il y a des questions, je suis à vous.
Chag Sameach, Kol HaKavod Eitan, et on passe tout de suite aux questions de Chavod. J'ai une question.
Ouais.
Eitan Dafka, je savais pas de quoi allait parler de ce sujet-là et je voulais te la poser déjà depuis quelques jours. J'attendais ce cours-là. C'est lié justement au début de ma Maseret de Yoma.
Ouais.
Et comme le huitième. Tu sais, tu avais un cours où tu disais que le but de Kippour, c'était d'arriver au repas de la.
D'après Kippour.
De Kippour. Voilà. D'accord. C'était pas un but d'enfoi, Kippour. Et dans la première Mishnah, tu vois que sept jours avant Kippour, t'as le Kohen Gadol, donc Kippour, c'est le huitième jour. Et le huitième jour, comme ça nous tourne, la Sivan a pris, c'est le but à atteindre, quoi.
Donc t'as compris. Donc t'as très bien compris. Tant que Yom Kippour sert à corriger les fautes, c'est pas l'idéal.
Mais est-ce que c'est un but en soi ?
Quand Yom Kippour devient la rencontre entre Dieu et nous, oui. Mais tant qu'il il est là pour corriger nos fautes, pas encore. Ok ?
Merci.
De rien. Après ce cours, il nous reste qu'à attendre le Mashiach. Pourquoi attendre ? À bosser pour le faire venir.
Une réaction ?
Bon, voilà. Ok. Eh bien, les amis, Khatima Tova, et voilà.
Recording stopped.
Chazak ou Baruch. À très bientôt.
Khatima Tova.
Khatima Tova. Kol tov.